Il faut essayer d'être régulier à 2 heures près. C'est-à-dire que si vous le prenez tous les jours, n'importe quoi, à 20 heures, votre traitement, vous avez une fenêtre de tir, voilà, entre 18 et 22 heures, 2 heures avant, 2 heures après. Si vous oubliez passer ce temps-là, il vaut mieux sauter la prise et attendre la prise du lendemain.
Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Thomas Cantalou qui nous rejoint pour nous parler notamment de l'aspect médicamenteux. Il est psychiatre et je vais surtout le laisser se présenter parce qu'il le fera mieux que moi.
Merci pour l'invitation sur ton émission. Effectivement, je suis psychiatre, j'ai 28 ans. Je travaille actuellement en prison et sur un XAPA, qui est un centre de consultation pour l'addictologie. Et puis j'ai fait pas mal de trucs depuis quelques années autour de l'entrepreneuriat en santé mentale, dont la création d'une application qui s'appelle psychopharma.fr. Et une application gratuite, un site web en fait, qui va aider les professionnels de santé à prescrire plus simplement et à prescrire mieux les psychotropes. Et je crois que c'est le sujet d'aujourd'hui.
Exactement, tu l'as très bien dit. Et je serais curieux de savoir justement qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Psychopharma. Je mettrai bien sûr le lien en description si vous le voulez, et notamment si vous voulez partager avec votre psychiatre, ça peut être intéressant. Mais je te laisse nous en dire un peu plus.
Avec plaisir. Moi, j'ai commencé mes études de psychiatrie, donc c'était il y a 5 ans, quand j'ai commencé l'internat de psychiatrie à Lille. En fait, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il me manquait une source d'information fiable pour savoir quoi prescrire pour mes patients. Parce que je me rendais compte que les bouquins qu'on avait, les recommandations françaises, elles n'étaient pas forcément à jour. Il y avait beaucoup de recettes de grand-mère, il y avait beaucoup d'avis un peu dogmatiques de mes supérieurs ou de mes connaissances, mais c'était rarement fondé sur des preuves et moi, ça me gênait. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait créer une solution qui vienne centraliser toutes les informations, les dernières informations à jour sur le sujet. Basé sur les preuves scientifiques et surtout simple d'accès. Donc voilà, d'où la création d'une plateforme pour faciliter les prescriptions. C'est quelque chose qui existait dans beaucoup de spécialités, la dermato, l'ophtalmo, les maladies infectieuses, mais en psychiatrie, ça n'existait pas. Donc avec quelques amis, on s'est dit qu'on allait le faire. À la base, c'était pour nous aider entre nous, entre internes. Après, je me suis dit, ce serait bien si les psychiatres en général pouvaient l'utiliser. On s'est rendu compte au final que c'était surtout les médecins généralistes, les infirmiers et les pharmaciens qui utilisaient l'application.
Hyper intéressant. Et pour quelle raison d'ailleurs? C'est plutôt les médecins généralistes?
Je pense que les psychiatres, je vais me mettre dans la boue, on n'aime pas nous dire ce qu'on a à faire. On est censé avoir étudié, avoir lu des livres, appris des choses. Par contre, peut-être que les médecins généralistes qui sont... ils savent qu'ils doivent être bons dans tous les domaines, ils n'ont pas le temps de se renseigner à fond sur chaque spécialité. Donc quand il y a un nouvel outil qui vient leur faciliter les choses, je pense qu'ils sont plus facilement preneurs. Pareil pour les pharmaciens et les infirmiers.
C'est vrai que dans la psychiatrie, mais comme dans quasiment tous les domaines, il y a des vraies différences entre les générations et entre la manière de travailler, et notamment sur cet aspect médicamenteux, il y a tellement d'approches différentes. Et notamment de médicaments différents. Et en fait, moi le premier, enfin, étant moi-même bipolaire, enfin, comme tu le sais, comme vous le savez, c'est un vrai sujet et tu poses énormément de questions. Lorsqu'un psychiatre te prescrit un médicament, est-ce que tu le prends? Est-ce que tu ne le prends pas? Est-ce que c'est la bonne dose? Comment est-ce qu'il fait pour savoir? Et tu vois, pour te raconter un peu moi mon parcours, en fait j'ai fait une première dépression et d'ailleurs plusieurs par la suite et des phases hypomaniaques sans être diagnostiqué, alors que j'ai dû voir, je dirais, 5 psychiatres différents. Et c'est seulement il y a quelques années que j'ai été finalement diagnostiqué. Et un peu à chaque fois, au bout de 20 minutes de consultation, on m'a prescrit des antidépresseurs, voire même, quand j'ai été diagnostiqué, un médicament. Et j'étais un peu perplexe à chaque fois parce que je me disais, en fait, il ne me connaît pas encore et il me demande de prendre un médicament toute ma vie. Et j'avais du mal à l'accepter et à prendre conscience que c'était une nécessité, parce que maintenant, je prends des médicaments. Et en fait, c'est un psychiatre qui a eu, alors je ne sais pas si c'est une meilleure communication, mais en tout cas, qui m'a d'abord dit de lire un livre et qui m'a d'abord dit prenons le temps, on va refaire le point ensemble. Et c'est suite au deuxième rendez-vous qui m'a en fait proposé de prendre des médicaments et qui m'a dit que c'était d'ailleurs pas une obligation, que là j'ai eu envie de prendre des médicaments. Et enfin, je te raconte un peu mon expérience, mais je pense que beaucoup d'entre nous se posent ces questions-là de comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance et travailler avec son psychiatre pour trouver justement le bon traitement. Et je ne sais pas si c'était un peu des retours d'expérience, je suis curieux d'avoir ton avis, Thomas.
C'est hyper intéressant ce que tu racontes et malheureusement ce genre de retour d'expérience est assez fréquent et moi j'ai souvent en consultation des patients qui vont me dire j'ai vu trois psychiatres différents, j'ai eu trois plus ou moins diagnostics différents parce que une fois sur deux on m'a pas dit ce que j'avais non plus et voilà la liste des traitements qu'on m'a prescrits, ça me convient pas, comment vous pouvez m'aider quoi. Donc c'est assez fréquent malheureusement. Je pourrais pas parler au nom de toute une profession. Tu parlais de générations différentes aussi en termes de psychiatres. C'est sûr. Je pense que la société elle évolue, la façon qu'on a d'enseigner et d'apprendre la psychiatrie elle évolue aussi. Le rapport médecin-malade de manière générale il évolue aussi. La relation devient de plus en plus horizontale au fil du temps. Donc tout ça fait que les choses évoluent. Même si c'est un constat assez triste ce que tu dresses de par ton expérience personnelle, j'ai tendance à dire que je suis naïf et optimiste, mais je me dis que ça ne pourra que évoluer dans le bon sens dans le futur.
Ah mais là-dessus, je suis tellement d'accord avec toi et je trouve qu'il y a une vraie amélioration et grâce aussi à ce que tu fais, parce que enfin, tu ne nous en as pas parlé, mais tu fais aussi une newsletter, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, avec plaisir. Quand je dis que la relation médecin-malade, elle se horizontalise, pardon, c'est aussi parce que les moyens de communication, ils ont évolué, et les moyens d'obtenir de l'information, ils ont évolué récemment avec, enfin récemment, ça fait déjà 20-30 ans avec Internet. Mais cet accès à l'information, il redonne le pouvoir aux patients. Et il redonne le pouvoir sur ses traitements, sur la connaissance de sa maladie. On n'est plus obligé d'aller acheter un livre, de galérer un peu pour avoir de l'info sur ce qu'on ressent. En trois clics, on sait parfois précisément ce dont on souffre, ce qu'on ressent. On peut même rencontrer des gens qui souffrent de la même chose que nous, etc., etc. Et dans ce changement de paradigme, le fait qu'on redonne du pouvoir aux patients, et qu'on fasse descendre le médecin sachant de son piédestal, je me suis dit que ce serait pas mal de créer une newsletter, donc ça s'appelle Mental Weekly. C'est une newsletter qui traite de tous les sujets d'actualité en santé mentale. C'est une newsletter hebdomadaire qui est gratuite. Et l'idée, c'était vraiment d'aborder la santé mentale dans son ensemble, de ne pas parler que de la maladie, que de la psychiatrie non plus, parce que la santé mentale, on parle souvent de continuum, même si c'est un peu aussi décrié ce modèle-là, mais en tout cas, la santé mentale, c'est plein de choses. C'est pas que la maladie, c'est aussi avoir confiance en soi, savoir gérer ses émotions, bien dormir, avoir un bon rapport à l'alimentation, aux addictions, etc., etc. Donc, on essaye de parler de tout ça. On essaye aussi de parler d'un versant un peu plus politique, un versant aussi économique, financier, parce que c'est aussi, comment dire, il y a une activité économique liée à la santé mentale, liée à la psychiatrie, et le fait de donner de l'information le plus simplement possible et le plus largement possible, je pense que ce sera quelque chose qui pourra être forcément bénéfique au bout du compte.
Ouais, mais c'est tellement vrai en fait de réussir en fait à concevoir la santé comme quelque chose d'holistique, de où c'est pas uniquement les médicaments ou le psychiatre ou le psychologue, etc., etc., mais c'est vraiment un tout. Et pour revenir un peu au sujet des médicaments, je suis curieux de savoir un peu via ton expérience de quelles informations as-tu besoin, ou même ont besoin les psychiatres de manière générale pour trouver les bons médicaments? Parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire dans Parole de bipolaire, c'est on parle principalement aux personnes qui sont avec une bipolarité, et c'est de les aider dans leur relation et ce qu'eux, ils peuvent faire de manière proactive. parce que bah voilà, ils ont un rôle à avoir pour aller mieux, et notamment dans la communication et pour donner ces informations. Et je suis, bah voilà, comment est-ce qu'on devrait faire en tant que personne bipolaire pour que ça se passe le mieux possible là-dessus?
C'est une très bonne question et comme tu le dis, il s'agit d'une relation et donc la relation sans mauvais jeu de mots, elle n'est pas unipolaire justement. C'est pas que au patient de fournir toutes les informations, c'est aussi au psychiatre d'aller les chercher. Néanmoins, si on veut mettre toutes les chances de son côté et être sûr d'avoir, enfin, en tout cas le plus de chances d'avoir un traitement qui nous corresponde le mieux possible, effectivement, il va falloir donner quelques renseignements qui vont pouvoir nous aider, nous, psychiatres, à nous guider dans la prescription. Nous, on va regarder l'âge, on va regarder le sexe de la personne, forcément, parce qu'on ne met pas les mêmes médicaments chez une femme qu'un homme. Si, par exemple, la femme elle a un désir de grossesse dans les mois ou les années à venir, on regarde l'âge parce que, pareil, les médicaments ne sont pas filtrés de la même manière au fil de la vie. Et en tant que patient, on peut aussi donner des informations que le médecin ne voit pas de prime abord, qui sont, par exemple, dans le cadre de la maladie bipolaire, est-ce que je souffre plutôt de dépression ou plutôt de phase maniaque ou hypomaniaque? Est-ce que mon sommeil est plutôt allongé ou raccourci? Est-ce que mon appétit a plutôt augmenté ou diminué? Est-ce que je fume des cigarettes ou est-ce que je ne fume pas de cigarettes? Parce que ça aussi, ça peut changer le métabolisme des médicaments, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils vont agir et la puissance avec laquelle ils vont agir. Donc tous ces renseignements, ça peut être important de les donner à votre médecin. Tout ce qui va être aussi insuffisance rénale, insuffisance hépatique, c'est des informations que le psychiatre il est censé aller chercher, mais qu'on peut donner aussi spontanément. Parce qu'en fonction de nos comorbidités, si on a une insuffisance du foie ou des reins, bah pareil, on va privilégier certains ou autres médicaments. Voilà. C'est quand même des petits renseignements que normalement le psychiatre va aller chercher. Hein. Je le redis, c'est une relation, donc c'est un échange. Et c'est pas
Ouais,
juste, on
non, mais
n'arrive
c'est
pas juste avec son
intéressant.
dossier
Et
médical. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
alors, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage, mais on va réussir. Ouais, ce que je voulais te demander, c'est, alors, tu as toutes ces informations que tu as bien expliquées pour aider le psychiatre donc dans le fait de prescrire les bons médicaments. Tu as aussi psychopharma, donc que les psychiatres peuvent utiliser. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est utilisation de biomarqueurs? Je vais te parler, d'ailleurs, on en a parlé juste avant, mais d'une application qui s'appelle Jardin Mental, qui a été créée par le ministère de la Santé, et qui permet en fait de proposer aux patients d'aller ajouter des informations sur sa santé. Alors, c'est du déclaratif sur cette application-là, pour des raisons d'ailleurs de données. Ça va être mon humeur du jour, est-ce que j'ai pris mes médicaments, est-ce que j'ai consommé potentiellement des drogues. Comment est-ce que mon sommeil, et puis vraiment des zones texte. C'est des informations ensuite qu'on peut partager avec son psychiatre. Et je suis curieux de savoir, voilà, est-ce que c'est des choses que toi, tu as déjà vu utiliser, ou voire même, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que tu as déjà vu des gens te partager un peu leur nombre de pas pour justement avoir encore plus d'informations? Est-ce que c'est des choses qui se font ou pas?
Alors, j'avais pas compris, je voyais que tu m'avais dit jardin montagne. Je ne connaissais pas, mais oui, jardin mental, je connais. J'ai pas de patients qui utilisent ça. C'est pas les seuls à proposer ce genre d'outils. Donc, c'est du recueil actif de données, c'est-à-dire que le patient doit faire un effort pour rentrer ces informations-là. Mais on a aussi plein d'outils qui font du recueil passif via le nombre de pas, justement, comme tu signalais, ou la fréquence cardiaque sur la journée, etc., etc. Donc, l'utilisation de ces biomarqueurs, moi, je suis pas forcément fan. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc je changerai sûrement d'avis d'ici quelques années. Mais pour moi, la santé mentale et les émotions, c'est surtout la gestion des émotions, c'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être mesuré. On n'est pas des robots et cette quête de perfection ou du fait que les choses soient ordonnées, rangées, ne dépasse pas certains seuils, pour moi, elle peut être délétère en termes sur un niveau macro. Peut-être que pour quelques personnes, ça peut être utile, mais sur le plan macro, moi, je ne suis pas forcément pour ce genre d'outil. Sur le recueil de données actives, malheureusement, on se rend compte que bah, au bout de quelques jours, les gens arrêtent parce que bah, c'est contraignant de remplir ces informations. Et sur le plan du recueil de passifs, je ne suis pas pour non plus parce que, voilà, encore une fois, on n'est pas des robots et on n'a pas à tout notifier, screener en permanence. Pour te donner une petite anecdote, moi j'ai un collègue qui a une Apple Watch, donc qui mesure sa fréquence cardiaque en permanence. Et un jour, il est venu me voir un matin en me disant, t'as vu, ma Apple Watch, elle m'a dit que j'étais descendu à 50 battements par minute cette nuit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à ton avis? Je lui ai dit, à mon avis, il faut que tu enlèves ta Apple Watch. Faut pas que tu dormes avec. C'est ça le vrai problème. Et parce que c'est normal d'avoir une fréquence cardiaque qui diminue pendant son sommeil, mais surtout, voilà, c'est pas pour moi une bonne idée de tout screener. J'ai un autre ami, pareil, avec une Apple Watch, qui me disait, tiens, regarde, aujourd'hui, j'ai été anxieux, alors que bah, je me suis pas forcément senti anxieux. Mais du coup, bah, ça va le conditionner à croire que effectivement, il n'a pas passé une bonne journée sur le plan des émotions, etc., etc. Enfin, tu vois où je veux en venir? Moi, je suis pas forcément fan de ces biomarqueurs. Je ne sais pas si en pratique, ça peut nous faire gagner du temps en consultation, et je ne sais pas si c'est le but non plus ultime que les consultations soient de plus en plus courtes. Je ne sais pas si c'est la réponse au problème de mammographie médicale ou au problème de mauvais diagnostic ou de mauvaise prescription. J'imagine que les solutions sont peut-être un peu ailleurs.
En fait, c'est assez particulier, tu vois. C'est un sujet que je trouve assez passionnant parce qu'il y a des enjeux derrière qui sont liés à des aspects économiques et notamment à des. Parce qu'on a tendance à l'oublier, même si en France, la santé est encore à améliorer. Enfin, je pense à, par exemple, à un continent comme l'Afrique où il n'y a pas toujours des psychiatres du tout, même dans certains endroits, ou pour une question de moyens ou autre. Il faut quand même trouver quelque chose, il faut quand même proposer quelque chose. Et ça, c'est peut-être aussi pour ces raisons-là que ça commence à faire à voir le jour, on va dire. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans le fait que ça peut entraîner un conditionnement et que ça peut aussi avoir des effets délétères. Tu aurais quoi comme recommandation d'ailleurs pour se poser la question de se dire, est-ce que c'est fait pour moi ou pas les biomarqueurs et dans quelle mesure?
Est-ce que tu prends ta température tous les jours, Clément?
Clairement non.
Voilà. Est-ce que tu prends ta tension artérielle tous les jours? Peut-être que tu vas me dire oui, mais peut-être que j'aime vraiment. En gros, tu vois, ces biomarqueurs, le poids, la température, la fréquence cardiaque, etc., c'est pas des choses qu'on est censé mesurer tous les jours. Et pour les émotions, bah, pour moi, c'est pareil. Alors, si malheureusement tu souffres d'hypertension artérielle, peut-être que là, ton cardiologue va te dire, il faut que tu prennes ta tension artérielle tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Peut-être que, effectivement, pour certaines maladies psychiatriques, c'est pareil. On peut demander parfois de screener davantage son humeur, son sommeil, son anxiété, etc. Ça peut faire partie de la thérapie. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut faire tous les jours, toute sa vie, jusqu'à sa mort. Ça me paraît un peu comment dire, la balance avantage-inconvénient, entre guillemets, le rapport qualité-prix, pour moi, n'est pas forcément intéressant. Et ce que je te disais, c'était qu'à l'échelle macro, à mon avis, c'est même délétère, mais forcément, au cas par cas, peut-être que tu vas réussir à résoudre un problème d'insomnie, un problème de troubles alimentaires, etc., etc., qui peuvent être des symptômes lorsqu'on souffre d'un trouble bipolaire, grâce à la mesure de certains biomarqueurs.
Non, c'est intéressant. En fait, moi, j'ai plus le nom de la boîte, j'avoue, mais je vais la retrouver. Et c'est un gars qui faisait partie d'une équipe de prix Nobel et qui, lui, est en train de retravailler des médicaments qui ne sont pas utilisés par les laboratoires pharmaceutiques en les combinant à des biomarqueurs pour, en fait, des médicaments qui ont été un peu mis de côté parce que les tests n'ont pas été pertinents. Et de dire, en fait, si jamais on associe ces médicaments à des biomarqueurs, il peut y avoir des possibilités. Alors, ils sont encore dans des phases de tests cliniques, mais c'est à assez grande ampleur. Et je suis curieux de savoir ce que tu penses de ce genre d'initiative.
Comme je te dis, hein, je changerai sûrement d'avis d'ici quelques années. Mais pour pour le moment, tu vois, je me dis que les efforts sont à concentrer peut-être ailleurs. Et si on veut être vraiment pragmatique et efficient, c'est peut-être pas avec les biomarqueurs qu'on va réussir d'un point de vue de santé publique, encore une fois. Je pense peut-être en trop macro, mais pour moi, les solutions dont on a besoin tout de suite maintenant, c'est pas forcément les biomarqueurs. C'est une stabilité économique, c'est manger à sa faim, c'est avoir des logements décents, c'est ne pas avoir cette démographie médicale qu'on a actuellement. Enfin, tu vois, ça passe par plein d'autres déterminants que cette médecine de précision qui paraît alléchante et porteuse d'espoir. Mais tu vois, enfin, d'une manière très pragmatique, je me dis qu'on pourrait aussi concentrer les efforts sur d'autres sujets. Mais cette recherche m'intéresse et ça m'intéresse beaucoup que si tu retrouves le nom de ce prix Nobel, de ce chercheur, parce que la société, elle change aussi par les gens qui innovent, par les extrêmes, entre guillemets. Donc, il faut jamais être complètement fermé à ce genre d'initiative, au contraire.
Et je l'avais trouvé, je sais pas si tu connais le, enfin si vous connaissez d'ailleurs le podcast Stigma, je sais pas si tu connais. Bah, c'est plutôt solide, moi j'aime bien comme podcast. Et n'hésitez pas d'ailleurs, c'est anglophone par contre, mais c'est plutôt pas mal. Et c'était l'un des invités. Ouais, donc c'est, bah, je vais revenir un peu sur la partie médicaments. Et notamment, tu m'expliquais la complexité donc et les informations nécessaires pour trouver les bons médicaments. Et il y a quelque chose aussi que je trouve un petit peu compliqué, c'est bah, les effets secondaires. Parce qu'on sait tous que sur la bipolarité, il peut y avoir des effets secondaires importants. Et ce que je vois énormément et qui m'attriste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, parce que les effets secondaires sont parfois compliqués, décident d'arrêter leur traitement et parfois même sans en parler et sans se faire accompagner par leur psychiatre. Ce qui entraîne très souvent bah, des conséquences particulièrement compliquées et donc bah, qui peuvent arriver à des hospitalisations et autres. Et je serais curieux de savoir un petit peu, toi là-dessus, si tu dois te mettre un petit peu dans la peau du patient, c'est-à-dire qu'on fait tous un petit peu ce trade-off en se disant bah, les médicaments vont m'aider à me rétablir et entre guillemets à trouver une certaine stabilité. Maintenant, je ne suis pas prêt non plus à faire trop de concessions et c'est toujours ce trade-off à avoir. Et comment est-ce que tu expliquerais ça et comment est-ce que tu nous aiderais en fait à réussir à comprendre et à faire ce trade-off justement?
Ouais, et ben écoute, c'est super intéressant et c'est tout à fait légitime surtout. Il n'y a pas énormément de médicaments. En psychiatrie, on a 100 médicaments, grosso modo, pour toutes les pathologies. Pour la bipolarité, il y en a encore moins, du coup. Il y a quelques classes. Donc, tu as le lithium, tu as les antiépileptiques. Et tu as les antipsychotiques. Donc ces trois traitements, c'est les trois traitements de fond, grosso modo, pour les troubles bipolaires. Et en fait, normalement, le choix d'un médicament, il se fait en fonction des symptômes, comme ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plutôt des épisodes dépressifs? Est-ce qu'il y a plutôt des épisodes maniaques, etc. Et il se fait surtout sur la préférence, normalement, du patient, selon le profil d'effet indésirable du médicament. C'est pareil pour les antidépresseurs, pour les gens qui souffrent de dépression. Bien souvent, en fait, on choisit un antidépresseur en fonction du profil d'effet indésirable. Donc, c'est un peu triste, mais ça fait vraiment partie de la discussion normalement. Forcément, chaque médicament a ses petites spécificités. On va plutôt jouer sur l'anxiété, plutôt jouer sur la dépression, plutôt jouer sur ci, sur ça. Mais la composante, entre guillemets, effet indésirable, ça va être quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'effets indésirables pour les psychotropes qui apparaissent en début de traitement pendant 10-15 jours et qui ont tendance à s'apaiser avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête et qu'il faut vraiment, nous, en tant que psychiatre, expliquer aux patients, mais j'en parle du coup pour les auditeurs de ce podcast qui seraient concernés. Il faut pas avoir peur de ces effets, il faut vraiment se dire que c'est un peu la tempête à passer pour comment dire, faut que le nuage passe, quoi. Et en général, ça dure 10-15 jours. Il y a certains effets indésirables, par contre, qui restent un peu plus longtemps. Et cela, faut pas hésiter à les décrire, à en parler avec le médecin qui vous a prescrit votre traitement. Il y a des effets indésirables qu'on n'ose pas forcément aborder parce que ça peut être honteux. Je pense notamment aux troubles sexuels. Et puis il y a d'autres effets indésirables qui sont très fréquents, comme la prise de poids, qui, pareil, sont peut-être un peu plus compliqués à aborder en entretien. On se dit qu'on a un peu honte d'aborder ce genre de choses parce que, bah voilà, on parle d'une maladie, une maladie importante. On ne veut pas venir embêter le médecin qui nous a prescrit ça parce qu'on a pris 5-6 kilos depuis qu'on a commencé le traitement. Mais en fait, si, il vaut mieux en parler parce que tous les médicaments n'ont pas le même profil d'effet indésirable et il y a des médicaments qui vont pas toucher la libido, il y a des médicaments qui vont pas toucher la prise de poids, etc. Et on pourra toujours ajuster ça ensemble pendant la relation thérapeutique du coup qu'on a avec entre le psychiatre ou le médecin traitant et le malade.
Ouais, mais c'est hyper intéressant de vraiment d'avoir cette relation de confiance et de parler. Et surtout, bon, c'est quand même, on a la chance quand on a un psychiatre, c'est quelqu'un qui est là pour nous écouter et nous aider. Donc, de se dire que c'est en fait son boulot et que lui, il attend qu'on ait cette transparence et qu'on dise ce qui va pas. Et c'est un travail à faire sur soi. Et je pense qu'il n'est pas à sous-estimer. Nous, on le voit énormément en fait dans notre communauté. Où on a l'impression, enfin en tout cas c'est mon impression, que les personnes arrivent très facilement à en parler avec des personnes bipolaires, donc entre personnes bipolaires. Et par contre, il y a une sorte de blocage avec les autres. Comme s'il y avait, je ne sais pas, bah, en fait ils ne peuvent pas me comprendre, ils ne vivent pas la même chose que moi. Et c'est vrai que c'est intéressant et je pense que c'est bien ce que tu fais d'expliquer l'importance de dire les choses, notamment sur bah, le poids, les troubles sexuels. Parce que c'est commun. Comment faire justement quand on a ces effets indésirables et que bah en fait on se rend compte que hélas si jamais on a envie d'arrêter ces effets indésirables, bah, ça veut dire arrêter le traitement et arrêter le traitement peut aussi avoir des conséquences. Et en fait c'est une question qui se pose énormément. Et donc comment faire? Et même changer de traitement aussi fait peur. Donc comment est-ce qu'on peut faire le calcul? Même si bien sûr c'est le psychiatre qui va nous aider à le faire, mais dans les faits, c'est quand même le patient qui le matin va prendre ou pas son médicament. Donc comment est-ce qu'on pourrait justement réussir à prendre les bonnes décisions là-dessus? Enfin, t'as des conseils ou pas?
Il y a plein de conseils. Je te donnerai une référence pareil qu'on pourra donner, qu'on pourra joindre au podcast. C'est le réseau PIC, PIC, qui donne plein d'informations sur tous les psychotropes qui sont disponibles en France. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que pour les effets indésirables mineurs, par exemple l'inconfort intestinal, les diarrhées ou la constipation, la nausée, les vomissements, ce genre de choses, on peut, avec des petits remèdes de grand-mère, entre guillemets, les apaiser, les atténuer, et normalement, c'est des effets qui disparaissent au bout de quelques jours, cela. Par contre, il y a des effets qui sont un peu plus graves ou qui peuvent être un peu plus effrayants, comme la sédation, le fait de ne plus réussir à voir net, d'être hyper fatigué. Ceux-là, ils peuvent imposer une diminution, voire un arrêt du traitement, mais encore une fois, ça se fait toujours avec. C'est une décision partagée avec le médecin. Parce que parfois, ça peut être délétère d'arrêter d'un coup son traitement ou de le diminuer d'un coup. Donc, il faut vraiment en parler à chaque fois avec son médecin. Pour les petits problèmes, les inconforts que je citais avant, si vous avez la diarrhée, je dis n'importe quoi, mais à manger du riz, des bananes, ce genre de choses. Bien s'hydrater quand même pour éviter la déshydratation, ça aide. Au contraire, si c'est une constipation, bah, l'activité physique, l'hydratation toujours, des aliments qui vont vous faire plus aller aux toilettes, les pruneaux, les figues, ce genre de choses. Pour les nausées et vomissements, bah, ce que je conseille souvent aussi, ça va dépendre du traitement, il faudra demander à votre médecin, mais c'est de le prendre pendant le repas. Parfois, les gens prennent leurs médicaments à la fin ou avant. Bah, si vous le prenez vraiment en mode sandwich, quoi, entre deux tranches de pain, ça peut diminuer les crampes d'estomac et ce genre de choses qui sont pas toujours agréables. Et la prise de poids, on en parlait aussi juste avant. La prise de poids, nous, nos recommandations, il me semble que c'est pas plus de 5 kilos en 3 mois. Si vous avez pris plus de 5 kilos en 3 mois, c'est qu'il y a un problème lié aux médicaments. Donc, soit il va falloir le diminuer avec, après discussion avec votre médecin, soit il va falloir mettre en place des règles diététiques. Et ça peut se faire avec un diététicien ou avec le médecin traitant, voire le psychiatre peut vous donner quelques petits conseils. Mais bon, ça reste quand même la spécialisation du diététicien.
J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ouais, mais c'est des super conseils. Merci beaucoup. Et même moi, tu vois, j'apprends des choses. Donc, c'est vraiment trop cool. Et c'est bien d'avoir un peu ces critères pour se mettre un peu une alarme, de se dire, OK, j'ai pris 10 kilos en 2 mois. Bon, il y a un problème. Il va falloir faire quelque chose. Et je mettrai bien sûr le lien que tu m'as dit du réseau PIC. Et il y a un autre sujet que je vois beaucoup. C'est le côté, c'est bon, là ça fait 1 an que j'ai pas eu de phase importante, donc j'ai arrêté mes médicaments. Et c'est pas toujours parfait, et pour ne même pas dire, c'est parfois catastrophique. Et qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça justement, et par rapport à ces questions qu'on peut se poser?
C'est intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. 2 points peut-être. Le premier point, c'est que de manière générale en psychiatrie, tous les médicaments s'arrêtent progressivement. Même si c'est juste un Exomil ou un Xanax, enfin, même ça s'arrête progressivement. D'autant plus pour des traitements de fond, des traitements plus importants, des antipsychotiques ou des antiépileptiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu ce que tu as décrit tout à l'heure. Tu disais, tu as vu plusieurs psychiatres qui t'ont pas donné de diagnostic, puis au final, tu as trouvé quelqu'un qui t'a aiguillé sur le trouble bipolaire, etc. Les diagnostics et notre état de la maladie mentale, il évolue avec le temps, avec notre situation, avec notre vie, avec l'âge, avec notre situation professionnelle, avec notre situation sentimentale. Tout ça peut être des facteurs soit de décompensation, soit de stabilisation, et voire même de réhabilitation de ces maladies, en l'occurrence du trouble bipolaire. Donc les médicaments, c'est pas parce que n'importe quoi, à 20 ans, on va te diagnostiquer un trouble bipolaire qu'on va te donner tel médicament à telle posologie que tu vas devoir le garder toute ta vie. Peut-être qu'il va devoir être augmenté, peut-être qu'il va pouvoir être baissé. Peut-être qu'il va pouvoir même être arrêté un jour, peut-être qu'on va pouvoir mettre autre chose, peut-être qu'un jour il va y avoir un projet de grossesse, du coup on va changer de molécule et puis on va remettre autre chose ensuite. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui est figé qui est gravé dans le marbre en ce qui concerne la maladie mentale. Donc le conseil que je pourrais donner, encore une fois, c'est le premier point, c'est qu'il n'y a rien qui s'arrête d'un coup. Il faut toujours tout faire progressivement. Et le deuxième conseil, c'est d'en parler avec un médecin avec qui la communication passe bien. Parfois, comme tu le dis, il faut faire un, deux, trois, voire 5 médecins différents pour enfin trouver une personne avec qui ça résonne un peu, quoi. Mais c'est vraiment important de trouver quelqu'un avec qui il y a une relation de confiance, parce que ces questions, elles sont légitimes de pouvoir baisser son traitement un jour. Mais pareil, ça doit faire l'objet d'une discussion, d'un questionnement, de savoir où on en est sur tous les autres pans de sa vie, parce qu'il n'y a pas que la maladie non plus, hein, c'est pas une étiquette, on n'est pas bipolaire, on souffre de bipolarité, mais on a aussi un travail, une situation familiale, une situation sentimentale, etc., etc., des loisirs. Et tout ça, c'est à prendre en compte, ça rentre dans l'équation pour savoir si il faut changer ou pas son traitement.
Mais c'est hyper logique presque, hein, mais bon, au final, on l'entend peut-être pas assez, mais c'est que oui, un médicament, on le prend à un instant T parce qu'il est nécessaire et que notre vie va changer, et donc la prise de médicaments va aussi changer avec le temps. Et j'en parlais aussi, ça va dépendre de beaucoup de l'âge, hein, tu donnais ce critère-là, mais on parlait par exemple du lithium. Et que avec l'âge, il y a des problèmes, notamment je crois au niveau rénal, si je dis pas de bêtises, Thomas. C'est ça.
Ouais, c'est ça. La thyroïde aussi peut être un petit peu touchée. Ça se vérifie. C'est pas, enfin, ça se dose. Tu vois, tu fais un contrôle de routine de ta thyroïde et de ton rein pour voir si tout va bien.
Et je parle du lithium, mais en fait, tu nous as parlé de trois types de médicaments principalement. Est-ce que tu peux assez rapidement vulgariser ces trois types de médicaments et dans quelle situation ils sont pris? Même si, bah, je le rappelle quand même, c'est un psychiatre seulement qui est en mesure de vous prescrire des médicaments. Alors, un médecin généraliste peut entre guillemets dépanner, mais il faut vraiment privilégier le psychiatre. Mais je trouve ça important quand même de partager les informations parce que bah, y a des situations où on n'est pas toujours dans un monde parfait et qu'on n'a pas toujours accès à un psychiatre rapidement. Donc voilà, si tu peux donner un petit peu les grandes lignes sur les différents traitements.
Ben je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, effectivement, le lithium, c'est un des traitements les plus anciens. C'est le plus recommandé, normalement, mais malheureusement, c'est pas le plus prescrit parce qu'il fait un peu peur. C'est un médicament un peu à part. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un médicament qui va pas jouer sur la libido. Par contre, il va faire prendre beaucoup de poids, en général. Il peut sédater pas mal aussi, fatigué. C'est un traitement qu'il faut prendre régulièrement, qui va faire l'objet de certains dosages sanguins. On va doser la lithiémie, donc c'est le taux de lithium dans votre sang, pour savoir si il a la bonne dose. C'est un médicament pareil qui va être un peu contraignant parce que en cas de déshydratation ou de surhydratation, bah, ça va changer sa concentration et ses effets. Donc voilà, ça demande juste une bonne observance, entre guillemets, d'être assidu et de bien pouvoir le vérifier, de bien connaître sa maladie et son ressenti avec ce traitement-là pour que tout se passe bien. Ça, c'est la première classe, la plus ancienne et la plus recommandée. Et ensuite, à côté, on a deux autres classes. On a les antiépileptiques, donc qui sont des traitements qu'on donnait à la base pour traiter les gens qui souffrent de crises d'épilepsie. Peut-être que ça parlera à certaines personnes, c'est le tégrétol et le lamictal notamment, et aussi tout ce qui est dépakote, dépakine, dépamide, qui ressemblent à la même molécule, c'est le valproate. Ces médicaments, du coup, c'est des antiépileptiques. Ils vont pas jouer énormément non plus sur la libido. Ils vont pas forcément faire prendre beaucoup de poids non plus, et ils vont pas sédater non plus beaucoup. Ils sont quand même indiqués en deuxième intention parce que parfois ils sont un peu moins efficaces, et souvent en fait ils ont beaucoup d'interactions avec plein d'autres traitements. Donc si vous avez déjà d'autres maladies chroniques ou vous prenez d'autres traitements, c'est pas toujours très pratique d'avoir des antiépileptiques sur son ordonnance. Et enfin la dernière classe, qui est souvent utilisée par les psychiatres parce que en général ils la connaissent bien, c'est les antipsychotiques. C'est les médicaments qu'on donne aussi pour la schizophrénie, mais qu'on peut donner aussi dans d'autres cas particuliers. Les plus connus, et la plus recommandée dans cette classe thérapeutique, c'est le Xeroquel ou quetiapine. Mais on a aussi l'Abilify et le Risperdal qui sont beaucoup prescrits en France, et le Zyprexa. C'est des médicaments qui vont avoir tendance à faire prendre du poids, à jouer sur la libido et à sédater. Donc ils ont tous ces effets indésirables, mais ça va jamais être dans la même mesure. Par exemple, le Zyprexa va vous faire prendre beaucoup de poids, alors que l'Abilify pas tant que ça. Pareil pour la somnolence, la quétiapine peut beaucoup vous sédater, alors que l'Abilify pas trop, etc., etc. Ils ont chacun leur spécificité. Ils ont moins d'interactions que les antiépileptiques, et la prise peut être, comment dire, pas aléatoire, hein, en aucun cas, faut que ce soit aléatoire, mais c'est moins grave si on rate une prise que par rapport au lithium, il y a moins de dosage, etc. Mais dans tous les cas, par contre, ça c'est important aussi de le dire, parce que tout le monde ne le fait pas malheureusement. Mais quand on prend un traitement pour le trouble bipolaire, un traitement de fond, j'entends, il y a certains dosages sanguins qui sont effectués en début de traitement et puis régulièrement tous les 6 mois, voire tous les ans, pour vérifier que les reins vont bien, que le foie va bien, qu'il n'y a pas trop de cholestérol, pas trop de lipides dans le sang, que le cœur se porte bien également. Ça, c'est important aussi, voilà, de vérifier, et peut-être éventuellement de le rappeler au médecin qui vous prescrit votre traitement, parce que en pratique ça peut être oublié par le prescripteur.
Merci beaucoup pour cette synthèse. Il y a un autre point aussi que je trouve assez intéressant, c'est l'automédicamentation. Et c'est un truc qui a l'air un peu basique comme ça, mais moi-même, je l'ai un peu fait, notamment avant mon diagnostic. Alors j'avais tendance, par exemple, en école, à un petit peu fumer, enfin un petit peu, j'ai même pas mal fumé de marijuana, hein, faut le dire les choses, en école et commerce. Et c'était un peu une manière de un peu me sédater, entre guillemets, dans des phases hautes, ou voire même de voir la réalité de manière différente. Mais après, il y a plein d'autres manières de le faire. Et hélas, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont consommer de l'alcool et autres, parce que c'est une manière de sortir de manière un peu factice d'une dépression, par exemple, ou autre. Et alors, bien sûr qu'il ne faut pas le faire, enfin, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, mais ça va avoir des interactions avec les médicaments. Et je voulais justement que tu nous donnes un petit peu les grandes lignes, parce que ce n'est pas toujours facile à évoquer avec son psychiatre, alors que pourtant c'est une information qui, j'ose imaginer, est importante. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme un peu guidelines, comme aide pour essayer de réussir à en parler et justement de trouver les bonnes choses à faire,
Dans l'idéal, en fait, on peut parler de tout, hein, normalement
quoi.
avec son médecin. Je dis bien dans l'idéal, parce que je me doute bien que ce n'est pas forcément le cas. Effectivement, l'utilisation de toxiques comme le cannabis ou l'alcool, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent. C'est des excellents médicaments sur le coup. Et moi, c'est ce que je dis quand je suis avec un patient. C'est, vous avez eu raison, ça fait du bien, ça soulage les symptômes. Par contre, le problème, c'est qu'avec le cannabis et l'alcool, on a un gros effet pervers derrière. Et en fait, alors pour le cannabis, ça peut donner des troubles psychotiques, ça peut donner un trouble de l'humeur, et ça peut donner un trouble anxieux. Donc, rien de bon sur le long terme, hein. Et pour l'alcool, ça peut pas donner de troubles psychotiques, mais ça peut quand même donner un trouble de l'humeur, plutôt une dépression dans le cas de l'alcool. Et surtout une grosse anxiété généralisée, l'apparition de phobies, etc. Donc, même si sur le coup ça marche bien, ça faut le reconnaître, c'est sur le long terme qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Ça va jouer également sur l'appétit, sur le sommeil, sur la gestion des émotions au quotidien. Enfin, bref, ça va vraiment venir tout emboliser. Donc, l'idéal, c'est d'en parler le plus tôt possible parce que. Si avec ou sans traitement, on est obligé parfois de prendre soit du cannabis, soit de l'alcool, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Et il y a forcément une solution. S'il y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et une solution qui est moins nocive que l'alcool ou le cannabis sur le long terme. Donc l'idéal, c'est d'en parler et de voir comment on peut ajuster soit le traitement, soit les habitudes de vie, soit etc., etc. Là, tu parlais d'école de commerce, j'ai dit n'importe quoi, mais peut-être que la solution, ça aurait été de faire une année de césure, de faire une pause, de se réorienter, etc., etc. Mais en tout cas, le fait d'en discuter aurait sûrement permis, j'imagine, de faire autrement et de limiter les risques que ça aggrave ton état de santé mentale.
Ouais, mais tu le dis assez bien. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, mais la prise de drogue, souvent, c'est pour soulager quelque chose d'inconfortable. Et c'est à cause d'un manque. C'est parce que on a besoin de combler ce manque qu'on va prendre généralement une drogue. Et donc, c'est sûr que le problème de fond, il ne sera pas réglé. Et bon, mais c'est pas toujours facile. Et j'aime bien la manière dont tu le dis, et qui est de déculpabiliser la personne pour pouvoir ensuite trouver des solutions, d'être dans une optique vraiment positive. Je trouve ça assez intéressant.
Tout à fait. La chasse aux sorcières, c'est pas quelque chose qui marche, que ce soit en médecine ou dans tous les domaines. Et je pense que plus il y aura de pédagogie, dans un sens comme dans l'autre, plus on arrivera vers quelque chose de vertueux et qui fonctionne.
Alors, je vais noter pas mal de questions, et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. J'avais été étonné. Tu parlais de la prise de médicaments et de moments de la prise de médicaments. Est-ce que là-dessus, tu vois des guidelines et enfin, des guidelines, je devrais le dire en français, pardon, mais des conseils pour peut-être prendre un médicament? J'ai eu l'impression que c'était qu'il fallait le faire de manière assez régulière. Mais est-ce que toi, tu donnes des conseils à tes patients pour ne pas oublier et pour justement les prendre régulièrement?
C'est une bonne question. Je t'avoue que j'ai jamais pensé à donner des conseils, parce que j'en ai pas de toute façon, pour ne pas oublier la prise d'un médicament. Pour chaque médicament, moi, que je prescris, je précise l'heure et la façon de prendre le médicament. Il y a des médicaments qui peuvent pas être coupés en deux, et des médicaments qui peuvent. Il y a des médicaments qu'on peut même broyer dans un verre de jus d'orange. Il y a des médicaments qu'on peut pas associer à certains aliments. Il y a des médicaments qu'il faut prendre plus tôt le matin, d'autres plus tôt le soir. Mais ils ont tous leur profil, donc je ne vais pas pouvoir tout lister là aujourd'hui. En général, c'est écrit sur la notice, hein. Donc il ne faut, faut pas hésiter à la lire, cette notice. Et vous pouvez demander au médecin, effectivement, qu'est-ce qui correspondrait le mieux à votre situation. Parce que parfois, on a le choix. Il y a des médicaments qu'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée, pour peu qu'il soit pris régulièrement, c'est-à-dire toutes les 24 heures ou toutes les 12 heures. Et bah parfois, ça va mieux, comment dire, mieux vous correspondre de le prendre plus tôt le matin, parce que vous avez l'impression que ça vous booste un peu, ou que ça améliore votre humeur. Ou d'autres personnes vont préférer prendre le soir parce que ça a tendance à s'édater, à fatiguer, et du coup, ça permet de s'endormir plus facilement. Ce qu'il faut retenir, c'est que y a quand même un petit message. Il faut essayer d'être régulier à 2 heures près. C'est-à-dire que si vous le prenez tous les jours, n'importe quoi, à 20 heures, votre traitement, vous avez une fenêtre de tir, voilà, entre 18 et 22 heures, 2 heures avant, 2 heures après. Si vous oubliez passer ce temps-là, il vaut mieux sauter la prise et attendre la prise du lendemain. En aucun cas, il faut prendre double prise si on a oublié la prise précédente. Je le dis, mais j'imagine que ça peut être une question qui nous traverse l'esprit, de se dire, bah tiens, si je l'ai oublié, je prends double dose le lendemain.
Ouais, et tu vois, je savais pas. Donc, merci pour l'info. Parce que, ouais, je l'avoue, hein, moi le premier, ça m'arrive d'oublier. Et on a beau se dire, en fait, moi j'utilise un pilulier. Donc, c'est vraiment la méthode la plus classique possible. Mais ça marche bien. Tu vois, je ne suis pas très techno là-dessus. Donc, mais bon, chacun son truc. Hein, et
Ah ouais,
c'est vrai
t'as tout à fait
que.
raison.
En fait, ouais, alors moi je pourrais passer, je pense, facilement 1 heure de plus avec toi, mais on s'était fixé un horaire et j'aime beaucoup terminer par cette question que je pose un peu systématiquement. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour le sujet de la santé mentale?
Bon, ce serait un petit coup de baguette magique, mais qui aurait des effets à long terme, je pense. Je changerais la façon qu'on a de communiquer à propos de la santé mentale. Je pense que c'est un mot qui est, ou une expression, un concept qui est encore un peu nouveau pour beaucoup de monde. Moi, je travaille en prison actuellement, et quand je parle de dépression, de santé mentale à mes patients, on dit en rigolant, enfin, ils me disent en rigolant, de toute façon, c'est un truc de blanc, ou c'est un truc qui n'existe pas, ou c'est un truc de femme. En fait, ils ont pas tort dans le sens où, en fait, bah voilà, ils donnent leur point de vue, et ils expriment quelque chose qu'on leur a appris, que la société leur a montré. Moi, j'aimerais, si j'avais une baguette magique, c'est changer cette vision des choses, et que tout le monde puisse comprendre et prendre conscience, pardon, qu'il a une santé mentale, que tout le monde a cette santé mentale, qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et je pense qu'il y aura des efforts de la part des médias, des communicants, des politiques publiques, sur la façon qu'on a de communiquer à propos de ça, pour qu'on se détache justement de tous ces clichés qui collent à la peau de la santé mentale, et que je viens de citer. Donc c'est pas hyper ambitieux, mais je pense que ça pourra vraiment aider sur le long terme beaucoup
Ah,
de
si, c'est ambitieux parce que de bien le faire et c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, tu fais partie de la solution, donc c'est déjà une très belle chose avec ce que tu fais actuellement. Et ouais, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Donc je me retrouve dans ce que tu dis, ne serait-ce que de dire haut et fort, ça existe et pour autant. Bah voilà, à partir du moment où on met en place les bonnes choses, et donc on a parlé des médicaments aujourd'hui avec son psychiatre, mais il y a tellement d'autres choses à faire, bah tu peux avoir une vie hyper heureuse et même enfin, vivre peut-être différemment, je pense qu'il faut dire les choses. Moi, ça a été peut-être l'un des trucs les plus particuliers, ça a été de prendre conscience que je ne pouvais pas faire exactement tout comme les autres. Et que, par exemple, quand mes potes vont en boîte de nuit et boivent plutôt pas mal d'alcool, en fait, c'était un truc que moi, je ne pouvais pas faire. Et que oui, je pouvais prendre quelques verres et jouer aux fléchettes. Bon, j'aime bien les fléchettes, j'avoue. Jusque minuit, 1 heure. Mais tu vois, après, je ne faisais pas la sortie en boîte. Et après, il ne faut jamais dire jamais. Mais ça a été peut-être l'un des trucs les plus importants. Et je trouve le fait que ne serait-ce que de communiquer là-dessus, c'est un peu avoir un bel impact. Et de dédramatiser aussi les choses. De voir que. Bon, voilà, on peut vivre avec. Mais c'est hyper intéressant et enfin, j'ai énormément appris. Sincèrement, Thomas, je pense que merci parce que il y avait vraiment du contenu que et là, je trouve, on n'exploite pas assez et où la connaissance, peut-être, n'est pas encore assez bien divulguée. Je me dis toujours que, en fait, le plus important, c'est faut que ça soit fun et il faut qu'on ait envie de manger en fait cette connaissance. Et je trouve que tu le fais très bien dans la manière de communiquer et du coup bravo par rapport à ça, je te le dis du fond du cœur.
Écoute, merci pour tous ces retours positifs, Clément. En tout cas, c'était un plaisir de partager tout ça avec toi aujourd'hui pour tes auditeurs et tes auditrices.
Ben, merci beaucoup Thomas, c'était vraiment un plaisir. Ben, je te dis à très bientôt et puis passe une très belle journée.
Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.